Nous allons immédiatement passer la parole à Madame Fatou.
Je suis désolé d'arriver aussi en retard. Je viens de rentrer au Sénégal après plusieurs années d'absence. Et j'ai accepté de participer à cette réunion parce que des collègues m'y ont invité et parce que ces thèmes sont des thèmes sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et discuté dans le cadre des études sur les femmes menées au cours de ma carrière. Alors, quand on m'a demandé de participer à ce séminaire, ce que j'ai choisi comme présentation, c'est de parler de la sexualité, de la fécondité et de la dimension sociale et religieuse de cette sexualité et de cette fécondité. Et je vais expliquer pourquoi. En fait, quand on parle de mortalité maternelle, les chiffres étaient choquants il y a 20 ans, mais ce qui est encore plus choquant, c'est que ces chiffres restent permanents, ils diminuent très très peu, et la mortalité maternelle dont on parlait dans les années 90, 95, notamment au moment de la conférence du Caire sur la population, où on a beaucoup parlé de sexualité, de fécondité des femmes, on se rend compte que 20 ans après, les chiffres ont peut-être légèrement diminué, mais les taux restent alarmants. Et ça, c'est un problème. Parce qu'on se rend compte que la mortalité maternelle continue à être une fatalité. Il faut lutter contre cette fatalité. Les risques médicaux qui entourent la grossesse semblent être socialement acceptés. Ça fait partie du cycle de vie des femmes. Dans ma culture wolof, quand une femme accouche, on dit « mutchena ». Ça veut dire qu'elle est sauvée. Sauvée de quoi ? Sauvée de la mort, j'imagine. C'est une formule. Quand on veut annoncer qu'une femme vient d'accoucher, on dit « mutchena ». C'est une formule qui est passée dans le langage courant, qui fait que lorsqu'une femme accouche, elle est toujours entre la vie et la mort. Et lorsque la vie l'emporte, alors elle est sauvée. Ça, c'est également, je pense, une phrase qu'on revient, j'espère un jour qu'on pourra éradiquer dans le langage qui annonce la naissance. Alors, les déterminants de la mortalité maternelle sont connus. Tous les déterminants sociaux, politiques, les déterminants médicaux, je suppose que vous en avez discuté pendant ces 3 journées, ils sont connus. Et on se rend compte que, malgré cela, les taux continuent. Et moi, j'ai envie de poser une question. Mais on pourrait se demander, les Africaines, peut-être qu'elles mourraient moins si elles faisaient moins d'enfants. Alors, je vais reprendre le problème à l'envers. Et quand je choque souvent les médecins avec qui je travaille, ou les autres sociologues, ou les autres femmes des associations auxquelles j'appartiens et avec qui je discute beaucoup autour de la sexualité et de la fécondité. C'est vrai que la médecine peut et doit réduire le taux de mortalité maternelle, mais elle n'y parviendra pas si on n'est pas au cœur de ce débat, la sexualité et la fécondité. Je regarde toujours un peu les approches démographiques, médicales ou économiques de ces questions, alors que ce qui est au cœur de ce débat, c'est la manière dont les femmes prennent en main leur sexualité et leur fécondité et la contrôlent. Si les femmes ne contrôlent pas leur corps, ne contrôlent pas leur sexe, alors la mortalité maternelle est ce qui peut ce qui peut leur arriver. Alors ce discours, quand on le tient, on est toujours jugé de féministe, occidental, mais le discours des féministes occidentales, d'un enfant, quand je veux, quand je peux, si je veux, j'aimerais bien que la majorité des Africaines, sinon toutes les Africaines, puissent également le tenir. La mortalité maternelle, elle a été vraiment réduite dans beaucoup de pays d'Occident, sans doute à cause des progrès de la médecine, mais je pense que quand les femmes ont commencé à contrôler leur sexualité et leur fécondité, ça a été beaucoup, beaucoup mieux. En tout cas, la décision, quand elle leur a appartenu, je crois qu'elles ont été moins affectées par tous les traumas qui peuvent arriver. Et cela, ces débats, bon, ils sont dans le monde depuis longtemps, mais on a souvent quelques repères historiques. Je pense que la conférence du Caire en 1994 a été très importante. Elle a été importante parce que les démographes africains ont commencé à discuter de populations africaines, non plus en termes de réduction de la natalité, mais en termes de développement, disons, d'accès aux ressources. Mais les femmes dans le monde ont commencé à discuter de la natalité en termes de contrôle de leur corps, de leur sexualité, disant que leur corps n'était pas seulement un corps à reproduire, mais c'était un corps qui pouvait travailler, qui pouvait aller à l'école, qui pouvait travailler, qui pouvait exercer des tâches politiques, etc. Donc je pense que quand on a commencé à réfléchir le destin des femmes, qui était un destin au-delà de la maternité, alors je pense qu'un certain nombre de choses ont changé. Quand on a commencé à discuter de la mortalité maternelle, si on discute de la mortalité maternelle, non plus seulement en termes de santé, mais en termes de sexualité, en termes de droits sexuels, je pense que on aura permis aux femmes d'intérioriser un certain nombre de données qui existent et on leur a permis de contrôler cette fécondité qui, à mon avis, est encore beaucoup trop mortelle. Mais tout le monde l'accepte ici, puisque ce débat est autour de la maternité maternelle. Alors, on sait bien sûr l'opposition féroce rencontrée en 1995 à la conférence du Caire et qui s'est continuée à la conférence de Beijing en 1995 autour des questions de sexualité, autour des questions de la sexualité et de la fécondité. On sait l'opposition de l'Église, de la mosquée et du temple. C'est la première fois vraiment que, autour du corps des femmes, ces trois corps de religion ont des approches, forment ce qu'on appelait, nous, une sainte alliance autour de mais qu'est-ce que c'est ces femmes qui veulent contrôler leur sexualité et leur fécondité. Alors pourquoi les Africaines ? Est-ce qu'elles ne pourraient pas, elles aussi, poser ces questions qui sont posées au niveau global, mais qu'on pourrait poser au niveau des quartiers urbains et périurbains, mais également sur les places des villages ? Je ne parlais pas de la sexualité et de la fécondité des femmes en termes anthropologiques, car je ne veux pas être ramenée ni arrimée à une vision tout à fait ancienne, entre guillemets, des cultures de la maternité, de la femme-mère, de l'Afrique-mère. Vous avez tous les discours que l'on a autour de la, autour du corps des femmes et qui ont longtemps servi de support à l'identité féminine. On ne devient femme que lorsqu'on a des enfants. J'en ai quatre, hein, donc je peux te dire mon discours. Mais c'est la moyenne des Africaines. Hein. C'est la moyenne globale des Africaines. Mais en fait, j'ai eu des fécondités maîtrisées. Ça va, je suis vivante et je peux pouvoir tenir ce discours aujourd'hui. Mais comme j'ai très peu de temps quand même pour faire cette présentation, je vais partir d'un principe fondamental qui est le droit des femmes à disposer de leur corps. Et c'est à partir de là que je vais donner les éléments qui me semblent très importants pour tenter de réduire la mortalité maternelle dans les discours de plaidoyer. Dire aux femmes, votre corps vous appartient. C'est à vous d'en disposer. C'est personne, hein, c'est pas le père, c'est pas le mari, c'est pas l'imam de la mosquée, c'est pas le curé du village de Papenguin. C'est aux femmes de disposer de leur corps parce que leur corps leur appartient. Alors c'est vrai que et je le prends comme un droit démocratique. Les sociétés civiles africaines sont très discutent et peuvent critiquer tout à fait à l'aise tous les concepts de mauvaise gouvernance, le mal développement que l'Afrique connaît aujourd'hui. On peut même discuter des élections truquées avec les résultats que l'on sait et se réjouissent lorsque les élections deviennent transparentes parce que c'est une victoire démocratique. Mais la difficulté que l'on a, et moi je l'ai comme à la fois chercheur mais comme activiste dans mes cercles, les intellectuels ou les autres beaucoup plus populaires, lorsque j'avance le droit démocratique pour les femmes de contrôler leur corps, leur sexualité, leur fécondité, que ni l'État ni la société ne devraient pouvoir en disposer. l'État ne devrait pas refuser des méthodes contraceptives pour établir un équilibre entre la population et les ressources. Les mutilations génitales féminines auraient dû être disparues depuis longtemps, mais pendant des années, on a été littéralement coincé entre le discours de l'État qui ne veut pas s'engager parce que c'est une question des femmes, et le discours culturel ou religieux qui disent une femme qui n'est pas excisée ne peut pas prier, comme un homme qui est circoncis ne peut pas être un bon musulman. Donc ce piège dans lequel les femmes sont enfermées, je pense que le droit démocratique des femmes est de briser ces pièges. Et de la même manière, je dirais au corps médical, toutes les questions qui sont posées autour de la santé et de la sexualité et les problèmes médicaux qui sont posés devraient aider les femmes non seulement à mieux guérir, mais on devrait également supprimer toutes ces pratiques qui altèrent le désir et le plaisir sexuel des femmes. Parler du plaisir sexuel des femmes en Afrique, c'est extrêmement difficile, alors que les Africaines sont là, elles sont des partenaires dans le plaisir, et que comme disait dans une conversation privée tout à l'heure, la sexualité est mondialisée, donc tous les hommes ont les yeux ouverts sur une sexualité dans le monde, mais les femmes qui sont dans la maison rêvent peut-être de la même sexualité, elles ne l'ont pas forcément. Donc il y a vraiment ce débat autour de la santé et de la sexualité qui est une question. Et les questions que nous nous posons, c'est, parce qu'elles sont des facteurs de mortalité maternelle, c'est pourquoi encore le mariage des filles avant leur puberté. C'est interdit dans tous les codes de la famille. C'est comme le mariage forcé des mineurs. Ils sont interdits par les codes de la famille, mais ils sont toujours pratiqués dans les sociétés. Ce sont autant de viols impunis qui sont organisés par la collectivité. De la même manière, les grossesses précoces de jeunes filles mariées à un très jeune âge ou bien dont la sexualité est précoce, parce que les sexualités elles sont de plus en plus précoces dans toutes nos sociétés, pas seulement la société africaine, mais en Occident également, elles participent aussi du taux de mortalité. Alors comment ne pas donner une meilleure éducation sexuelle aux jeunes et comment ne pas leur permettre d'avoir accès à des moyens contraceptifs? Je sais que je choque beaucoup de collègues lorsque dans les réunions, mais je suis obligée de les provoquer pour qu'ils m'écoutent, c'est quand je leur dis, en fait, les femmes devraient avoir le droit de jouir de la sexualité et d'être fécondées par qui elles veulent, quand elles veulent, dans le cadre qu'elles choisissent. Alors, bien sûr, je suis généralement accusée de corrompre les valeurs de la société morale, de la société africaine, des valeurs religieuses, de la société musulmane à laquelle j'appartiens. Et alors, quand je dis ça, c'est en fait, après j'explique, mais je veux la fin du mariage précoce. Quand je pense que les femmes devraient être fécondées par qui elles veulent, elles devraient pouvoir choisir leur conjoint, à le faire à l'âge qu'elles veulent, quand elles le décident, dans le cadre du mariage ou pas du mariage. En fait, c'est la décision, c'est à la femme de décider du moment de son entrée en sexualité, mais de ne pas le faire, soit parce qu'elle est mariée par ses parents, soit parce qu'elle est violée par le jeune garçon qui habite dans la maison, ou bien les copains du collège, etc. Donc je pense qu'il y a ces questions qui sont posées. Je parle également de remettre en question la sexualité forcée dans ou hors du mariage. Vous savez, quand on a commencé à oser à discuter ici de viol conjugal, on nous a dit, mais quoi, le viol conjugal? Mais les femmes, elles sont mariées, le devoir conjugal. C'est vrai que dans le code de la famille, il y a le devoir conjugal. C'est dans le Coran aussi, et je pense que la Bible est également pour le devoir conjugal. Je parlais également de la sexualité exercée sur les fillettes, parce qu'il paraît que la sexualité avec jeunes filles vierges préserve du sida. Bon, on le retrouve un peu ici, mais on le retrouve beaucoup en Afrique centrale. Ce sont des questions qui ont été posées lors des campagnes contre le sida. Et bien sûr, il y a toute la corruption sexuelle, le harcèlement sexuel dont on ose à peine parler ici. On est à l'université, par les enseignants, par les supérieurs hiérarchiques, par les sugar daddies, comme on dit dans le monde anglophone, ou comme on dit chez moi, les pas, les demi-pas. De même que le viol collectif des femmes dans les campus, on a eu toute une campagne menée avec des collègues anglophones où on a eu littéralement une razzia dans les dortoirs de femmes Et je pense qu'à l'Université de Dakar, il y a eu un moment toute une campagne autour d'un certain internat de filles comme un camp de prostituées. Alors, c'était vrai ou c'était pas vrai, mais la rumeur a été telle que tout le monde y a un peu cru. La même manière qu'on pourrait parler des viols dans les conflits civils. Lorsque vous allez à Conakry, à un meeting de l'opposition, et que vous en sortez violé par les... Bon, d'autres ont été tués, hein, mais violé par les soldats de la garde prétorienne. Bon, je pense qu'il y a énormément de questions qui sont posées là. Alors, ces questions qui sont posées, les associations de femmes et les mouvements de femmes le posent, mais à des termes, enfin, de manière diverse, hein, parfois de manière très évidente, parfois de manière voilée. Mais je pense notamment au protocole de la Charte africaine des droits de l'homme relatif aux droits des femmes, qui a été élaboré à partir de 1993. Pendant une dizaine d'années, les Africaines de tout le continent se sont réunies dans plusieurs villes du continent, avec des consultations à la fois populaires, en milieu rural et en milieu urbain. Ce protocole a été adopté en 2003 par la conférence des chefs d'État de l'Union africaine à Maputo, au Mozambique. Dans cette charte, il y a un article 14 qui parle, alors pudiquement, parce qu'on ne peut pas dire autrement, hein, du droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction. Alors j'ai revérifié hier soir, hein, dans le protocole que j'ai beaucoup utilisé dans mes activités féministes, en disant, oui, mais les Africaines, nous aussi, nous avons notre protocole, et voilà ce que nous disons, qui était très avancé. Pas une seule fois, on a parlé de sexualité. On parle de reproduction. La reproduction engageant tout. Mais quand même, dans ce protocole, il est dit que les femmes ont le droit d'exercer un contrôle sur leur fécondité, elles ont le droit de décider de leur maternité, du nombre d'enfants et l'espacement des naissances. Elles ont le droit de se protéger et d'être protégées contre les MST, y compris le sida. Elles ont le droit d'être informées sur leur état de santé et elles ont le droit à l'éducation sur la planification familiale. Bon. Donc il y a un certain nombre de questions qui sont posées là. Et elles sont posées, mais elles sont toujours posées dans un contexte. Et ce contexte est un contexte, et c'est là que je vais venir peut-être quand même au sujet qu'on demande de traiter, c'est de parler des fondements socio-religieux de la sexualité et de la sexualité et de la fécondité. Parce qu'il y a tout un ensemble d'idéologies culturelles et religieuses qui donnent des discours normés sur des pratiques sexuelles, alors moi je dirais maintenant totalement éclatées. Alors on dit mondialisées, mais éclatées. Et quand je dis éclatées, je ne donne aucun jugement moral. Je fais juste un constat. Je fais juste un constat qui dit que la sexualité et la fécondité, telle qu'elle est pensée ou telle qu'elle est imaginée encore aujourd'hui par les sociétés, dans les familles, ces normes ont éclaté et on se rend bien compte parce que la sexualité est de plus en plus précoce. Les fécondités précoces sont de plus en plus importantes, alors qu'on a quand même tout un lot de contraceptifs que les femmes pourraient utiliser. Parce qu'en fait, on est dans un contexte où la maternité est une obligation. Elle est à la fois une obligation sociale. Toute femme est tenue de se reproduire. Enfin, disons, tout homme est tenu de se reproduire. Mais il ne peut se reproduire que par le corps des femmes. Donc les femmes sont tenues, mariée ou pas mariée, de reproduire la société. Une femme qui n'a pas d'enfant, alors parfois il y a un divorce, souvent il y a la polygamie, parce que la maternité est une obligation. Alors je donne quelques exemples que j'ai eus en faisant des entretiens avec des gynécologues sénégalais qui disaient, bon par exemple il y a un médecin qui me disait qu'une de ses parturientes venait de mourir, elle avait eu trois accouchements par césarienne, et le médecin lui avait dit, bon, on arrête, ben, elle a refusé, elle a fini par faire un quatrième enfant par césarienne, elle est morte et l'enfant est mort également. De la même manière, on a quelqu'un d'autre, j'ai donné le cas d'une femme qui venait de se remarier, et faisait son 13e enfant. C'est avec elle, elle a eu 12 enfants d'un premier mari, mais comme elle venait se remarier, elle voulait un enfant de ce mari-là. Donc elle faisait un 13e enfant, et ça, c'était difficile, parce que sa dernière grossesse remontait à plus de 10 ans. Mais elle avait fait, parce que la coépouse que son... Elle avait fait, parce que la, dans la famille qu'elle venait de rejoindre, les coépouses continuaient à faire des enfants. De la même manière, lorsqu'une femme n'est pas loin de la ménopause et que le mari prend une épouse de l'âge de ses filles aînées et qu'elle fait un enfant, elle se croit obligée d'en faire un. Pour prouver deux choses. Premièrement, qu'elle a toujours des rapports sexuels avec le conjoint. Sinon, on est vraiment délaissé. Et deuxièmement, montrer qu'elle était suffisamment, elle était encore féconde et que ce n'est pas parce qu'elle allait arriver à la ménopause qu'elle n'était plus capable d'avoir de relations sexuelles et qu'elle était capable d'être encore fécondée. Or, de telles histoires, on en a des milliers, sinon des millions, que les médecins africains pourraient vous donner. Alors, on parle souvent de désir de maternité. Est-ce que c'est un désir de maternité ou un devoir de maternité? Entre les deux, la frontière est très, 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 très faible. Hein, très... Alors, femme du jour, mais oui, mais moi, je veux avoir des enfants. Oui, mais entre le dire « je veux un enfant » et toute la socialisation que l'on a à faire des enfants, il est toujours très difficile de faire la distinction. Nicole Cole-Mathieu, une de mes collègues anthropologues au CNRS, parlait avec justesse de femmes comme machines à reproduire et à reproduire comme femmes. Ça veut dire que les femmes sont élevées dans un modèle culturel qui leur demande de reproduire et elles reproduisent une image de la féminité telle que la société l'imagine et pose comme norme. Mais tout cela, dans un contexte, on est quand même au XXIe siècle avec la télévision où se promènent plein d'images sexuelles. Les films pornographiques qui circulent, hein, même plus sous le manteau. Mais donc on a toute une érotisation différente de la société. Je ne dis pas que les sociétés africaines n'étaient pas érotiques. Hein. Elles avaient leur mode d'érotisme. Mais aujourd'hui, il y a une espèce d'érotisme international dans lequel tout le monde se retrouve plus ou moins, mais qui devient, cet érotisme international devient comme des normes que l'on reproduit, alors que le discours religieux et moral est toujours là et de manière très forte. Dans un contexte où la maternité est toujours perçue comme une fonction naturelle, après tout, il y a un utérus, il y a des ovaires, il y a tout un appareil biologique de la fécondité qui en atteste, on a cette fonction de reproduction qu'ont le corps des femmes et leur sexualité continue de faire l'objet de ce contrôle social et religieux. Alors moi, je ne parle que de l'église et de la mosquée parce que ce sont les deux monuments religieux qui m'entourent et qui conditionnent ma vie culturelle. Je pense à cette notion. Et l'État, au fond, l'État, alors je prends l'État sénégalais, hein, c'est le plus facile, celui-là, je le connais bien parce que sa loi s'exerce sur mon corps et sur ma fécondité. L'État du Sénégal, en fait, est pris un peu au piège entre la mosquée et l'Église. L'État du Sénégal est un État laïque. Laïcité, je pense qu'il y avait une forme de laïcité bien avant la colonisation, c'est-à-dire que les imams où les prêtres n'ont jamais dirigé la royauté. On avait des souverainetés soit héréditaires, soit électives, tout à fait posées. Le temporel et le religieux étaient absolument séparés. Bon, la colonisation française avec le Code Napoléon et la loi de 1905 a tout à fait établi, et il est dit dans la Constitution du Sénégal que le Sénégal est un pays laïque et que personne ne peut être discriminé en fonction de son appartenance religieuse. N'empêche, le code de la famille est un code fondé très très largement sur la charia, Alors, je vais dire les charias, parce qu'en fonction des pays, les charias changent de dimension. Et je pense que s'il y a des Maliennes assises dans cette salle, elles savent bien que le code de la famille, qu'elles ont mis des années à travailler, qui a été adopté l'année dernière, et qui a été au dernier moment retiré du vote à cause de la protestation des associations religieuses, savent bien de quoi je parle. Le mariage et le devoir conjugal sont entérinés dans les codes de la famille. La polygamie est entérinée par le code de la famille. Donc il y a un certain nombre de contrôles de la sexualité des femmes qui font partie des codes de la famille et qui sont en fait des dispositions tout à fait religieuses. Je sais bien que l'Église au Sénégal aurait bien voulu que le code de la famille donne la monogamie comme unique option matrimoniale, mais comme le code de la famille ne le fait pas, ce que l'Église demande, lorsque les chrétiens vont à la cathédrale pour se marier, l'Église leur demande non seulement d'aller à l'état civil, parce que c'est ça qui se fait, mais dans l'état civil, il faut qu'ils soient mentionnés, qu'ils ont opté pour la monogamie. Sinon, ils n'ont pas de sacrement de leur mariage à l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contrôle des institutions religieuses pèse toujours. On l'a vu également avec l'excision. Les batailles autour de l'excision, alors que l'excision est une pratique pré-islamique, l'excision n'est pas pratiquée dans tous les pays musulmans. Il est encore pratiqué en Égypte et dans certains pays d'Asie, mais il est également au Burkina Faso par les communautés aussi bien chrétiennes que musulmanes. Mais l'un des motifs les plus difficiles que l'on a eu pour rejeter les mutations génitales féminines, c'est de dire, mais une femme qui n'est pas excisée n'est pas propre. Et si on n'est pas propre, on ne peut pas prier. Alors quand on sait l'importance de l'ablution pour la prière musulmane, donc là, il a été extrêmement difficile d'abolir l'excision. Même si l'État du Sénégal a finalement voté en 1999 la loi contre l'excision, c'est toujours là. Alors bien sûr, on a toutes les pratiques de Sorora et Levira qui sont là. L'avortement, qui est une des causes maternité maternelle, reste extrêmement contrôlé et reste tout à fait interdite par les religions. J'ai toujours l'habitude... Je termine en seconde. J'ai toujours l'habitude de dire à mes étudiants que... parce que quand on discute de l'avortement, ils disent « Oui, mais ces femmes qui tuent leur enfant... » Bon, c'est un avortement, hein. Et elles tuent leur enfant. Bon. Et alors... mais je dis « Mais les hommes avortent en permanence. » Alors, choqué, je dis « Oui, toutes les fois qu'un homme rejette la paternité d'un enfant, il avorte. » S'il dit « Cet enfant n'est pas le mien » après avoir eu des rapports sexuels suivis ou pas suivis, l'avortement est là. Alors bien sûr, alors là, maintenant, au niveau des politiques, on a toutes les politiques autour de la santé et de la sexualité des femmes. Je pense notamment aux politiques américaines autour de la contraception ou de l'avortement à l'époque de George Bush, qui disait « Dans les pays où l'avortement est légalisé, l'aide américaine serait moins importante ou serait totalement conditionnée. » Donc, en conclusion, je pense qu'il est extrêmement important pour les politiques de santé et de fécondité qui vont au-delà de la réduction de la maternité maternelle. Il est extrêmement important que l'on puisse aider les femmes à contrôler leur sexualité et leur fécondité. Et je m'adresse aux médecins. Parce que je pense que plusieurs fois, des jeunes femmes vont voir les médecins qui leur disent mais tu es jeune, c'est maintenant qu'il faut faire les enfants, alors qu'elles veulent attendre. Aux jeunes filles qui viennent dans les centres sociaux, n'osent pas d'abord dans les centres sociaux aller demander de la fécondité. Mais on leur dit, mais vous êtes trop jeune, tu ne peux pas avoir de rapport sexuel. Alors quand une jeune fille vient demander une contraception, il faut lui donner sa contraception. Parce que quand on lui donne ou on ne donne pas, les rapports sexuels sont là. Donc en conclusion, je pense que ne pas mourir en couche devrait être pris comme un droit fondamental des femmes, même en Afrique. Et on ne peut pas, et pour ne pas ne plus mourir en couche, je pense que tant que les femmes n'auront pas décidé du nombre d'enfants, du moment où elles le font, comment le contrôler, comment accéder au service de planification, bien sûr, mais comment décider de où et quand je vais avoir un enfant, je pense qu'on n'arrivera pas à réduire cette mortalité. Voilà, je vous remercie.